Bonjour, ça me fait plaisir d'être là, d'avoir ce privilège de partager la parole de Dieu ce matin. Alors c'est vrai que bon, c'est un peu mes débuts, et c'est vrai qu'on est toujours un peu, on peut être un peu stressé, etc. Mais je peux vous dire que je suis rassuré ce matin, parce qu'en fin de compte, entre la louange et tout ce qui a été dit, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer ça en image sur la première. Vous allez vous comprendre. Oh bah tiens, des vases d'argile. C'est énorme, énorme. Amen. Voilà, ben ce matin j'avais à cœur en fait de survoler plusieurs versets pour réaliser à nouveau combien on est riche en Dieu, combien vous êtes riche en Dieu, combien nous sommes riches en Dieu. Alors j'avais envie d'aller par trois points. Je voulais voir d'abord Dieu nous appelle personnellement. Dieu a un appel personnel pour chacun de nous. Dieu nous appelle ensemble et il nous appelle ensemble à le servir. Amen. Alors, comme toute belle histoire, ça commence par « Il était une fois », F-O-I, mais une fois personnelle. Alors, mais cette fois-ci, il s'agit d'une histoire, de l'histoire de nos vies que Dieu a écrite. Alors, vous le savez certainement, mais nous avons un Dieu merveilleux, hein ? On l'a dit juste à l'instant, Dieu est bon. Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est le Dieu qui est bon. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Alors lisons-le ce matin. Regardons de plus près pourquoi on peut dire que Dieu est bon. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible, dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, versets 8 à 10. Voilà, merci. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, à bien plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Alors que nous dit ce verset ? Qu'il nous a aimés le premier, si bien qu'il décida d'envoyer son propre Fils, Jésus, à la croix, afin de nous racheter, chacun de nous, personnellement. C'est ce sacrifice qui nous a permis d'être réconciliés avec lui, nous libérant du péché et de la colère de Dieu. Par amour pour son Fils d'abord et ensuite pour nous, Dieu a ressuscité son Fils et nous obtenons son salut par grâce, le pardon des péchés et la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que de passer par Jésus. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On l'a dit il y a quelques minutes de ça. Donc depuis le péché d'Adam et Ève, un fossé s'est créé. Donc dimanche dernier, je l'ai un peu expliqué aux enfants. On était dehors et j'expliquais, ben c'est vrai que le péché, ça, en fait, on était comme sur une montagne avec Dieu. Le péché, ça a comme creusé un gros fossé qui nous a éloignés de Dieu. Et finalement, on est nous sur notre montagne et de l'autre côté, on voit Dieu, on voit une super fête qui se passe là-bas. On s'est dit, mais comment atteindre ? Et en fait, ce matin, encore, le Seigneur nous rappelle qu'il a donné son Fils qui fait cette passerelle, finalement, vers lui. Et hop, on peut revenir dans la joie de notre Sauveur, dans la joie de notre Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. C'est beau, ça. Nous sommes enfants de Dieu. L'œuvre de la croix attend une réponse personnelle de notre part. Et c'est vrai que ce n'est pas par la foi de ma belle épouse, ce n'est pas par la foi de mon père, de mes frères et de mes sœurs, oh, que je suis sauvé. Non, ce n'est pas par leur foi, mais c'est vraiment une réelle démarche personnelle. Une réelle démarche personnelle avec Dieu, par la révélation de son Fils, Jésus, par le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 43, verset 1, je vous laisse y aller. Il est écrit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, nous sommes à lui. C'est la grâce de Dieu. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai, que Dieu a formés sur nous, sur vous. Amen. Dieu a un appel particulier pour chacun de nous. Il nous connaît personnellement, mieux que quiconque. Il nous appelle à le suivre, à le servir et à lui obéir. Alors que je ne méritais rien, il est venu pour moi. Pareil pour chacun de nous. C'est la grâce de Dieu, une faveur imméritée. Alors pour ma part, peut-être il y en a pas mal qui le savent. C'est lors d'une colonie de vacances que j'ai pu donner mon cœur au Seigneur, alors qu'on faisait une veillée qu'on appelle SPI. Je ne sais pas si ça se dit toujours, mais c'est il y a longtemps maintenant. Hein. J'avais entre 7 et 8 ans. Il y avait une veillée SPI et on a pris des chants, on a pu adorer Dieu et puis il y a une des monitrices qui dit ben voilà, est-ce qu'il y a quelques-uns des enfants qui ont envie de donner son cœur au Seigneur. Et donc du coup ben moi j'ai senti dans mon cœur, j'ai dit ben oui, moi je veux connaître mieux Dieu, je veux te connaître Jésus, je veux t'accepter dans ma vie. Et depuis ce temps-là, la vie a passé et je n'ai cessé de grandir. Ma relation n'a cessé de grandir avec Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu, hein, c'est énorme. Alors justement, j'en profite, c'est une petite parenthèse, mais il y a une belle colo qui s'organise cet été. Amen. Et j'encourage vraiment, si vous connaissez déjà vos familles, si vous connaissez en plus des amis, etc., à les inviter. Parce que comme vous le voyez, en plus de passer des moments de fun, des moments de joie, on passe du temps ensemble, on balade, on vit vraiment des choses extraordinaires. Et en plus de ça, on peut faire des pas de foi, des pas de géant avec le Seigneur. Et vous voyez, on s'en souvient encore aujourd'hui. Donc, pour vous dire que ça marque ces moments et ça change des vies. Voilà, ça change des vies. Parce que je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas rencontré le Seigneur. Mais en tout cas, voilà. Merci Seigneur pour déjà ce temps et voilà. Et tout ce parcours. Amen. Alors, pour continuer, dans le psaume 32, verset 8, il est dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Au psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. » Et il agira. Ou encore Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors on peut voir dans ces quelques versets que j'ai choisis, mais il y en a tant d'autres évidemment, que Dieu désire vraiment une vraie relation personnelle avec chacun de nous. Dieu nous équipe et nous fait grandir personnellement par le biais de sa parole. Et c'est important, surtout dans les temps que nous vivons, que nous soyons solides et enracinés dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez ce même sentiment que moi, où on nous pousse un peu plus, de plus en plus, à se tourner vers nous-mêmes, à être égocentrés. Et ça, c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai avec ce confinement. Donc souvent, je prends cet exemple aussi avec les technologies de nos jours. Alors, je ne fais pas je sais plus comment on dit, mais c'est pas une guerre contre la technologie que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, quand on voit les noms comme iPhone, comme iPad, on voit ce petit « i » au devant qui « je » hein, en anglais. Et c'est quelque chose, on se retourne, on essaye de penser à... Voilà, les regards se redirigent vers chacun de nous, vers nous-mêmes, je veux dire. Voilà, même les pubs, les informations, tout ce qui nous font regarder à notre confort, notre bien-être, notre carrière professionnelle, nos évolutions, etc. Toujours, il y a un petit quelque chose qui nous fait un petit peu dévier et regarder à nous-mêmes. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que moi... Enfin, vous voyez, ce recentrage vers nous-mêmes seulement. Même ce Covid nous a encore plus poussé dans cet individualisme. avec ces confinements, nous poussant à l'isolement. Alors moi, j'ai de la chance, je suis marié, j'ai 3 enfants, donc il y a de l'animation à la maison. Mais il y en a d'autres, malheureusement, voilà, qui étaient peut-être un peu plus seuls et qui ont besoin d'être entourés. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on a de belles nouvelles. Ça a l'air d'aller mieux avec ce Covid. Il y a des barrières qui se sont enlevées. Mais ce vieil homme, quelque part, et c'est l'homme, hein, il y a ce vieil homme qui est là et qui veut continuer d'exister et à chercher son propre intérêt. Alors je crois bien évidemment que l'Éternel n'est pas contre le fait de penser à soi, évidemment. Mais je crois qu'il ne veut pas qu'on ait la tête dans notre guidon. Dans ce guidon et finalement oublier notre prochain. Celui qui est à côté de nous. Dieu nous enseigne et nous rappelle dans sa parole, dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 29 à 31, là où Jésus répond les deux plus grands commandements. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Alors, cette question que je nous pose, est-ce que la vie chrétienne ne se résume qu'à la seule relation entre Dieu et moi, entre Dieu et vous? Alors, oui, c'est ce qu'on a dit juste avant, que Dieu nous parle personnellement, c'est vrai. Il a un plan pour chacun de nous, c'est vrai. Mais il n'est bien sûr pas contre, il est en plus bien sûr pas contre tout ce qui est nouvelles technologies, le confort, etc. Tant que nous restons toujours dépendants de sa main, car tout nous vient de lui. On l'a chanté ce matin, c'est énorme. Je dis ça, mais parce que c'est réconfortant. Amen. Amen. Tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui. Alors j'avais simplement sur le cœur qu'il nous faut veiller à ce que notre relation avec Dieu et notre quotidien dans ce monde quelque peu narcissique ne nous éloigne pas des uns et des autres. Notre foi, bien que personnelle, n'est pas destinée à être vécue seule dans notre coin, mais tournée vers notre prochain. Amen. Car Dieu utilise aussi notre prochain pour nous, pour nous enrichir et nous faire grandir dans notre relation avec Dieu. Quand on dit on a pu prier les uns pour les autres, ça c'est Dieu nous utilise pour bénir l'autre, pour encourager notre prochain. Alors, l'homme n'a pas été créé pour rester seul. On le lit dans Genèse 2. Dieu a créé l'Église pour ça. Je dirais que c'est un équilibre que nous apprenons de jour en jour. Je peux recevoir de Dieu ou des autres pour grandir dans ma relation avec Jésus et ensuite pouvoir encore mieux aller redonner derrière et encourager mon prochain. Amen. Dans Ésaïe 64, verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Il est possible que ce soit ce verset qui a inspiré l'auteur du chant que l'on chante, « Je ne suis qu'un vase entre tes mains, un vase d'argile que tu as façonné. » Mais je pense que nous sommes appelés à être des cruches. Désolé pour le nom. Donc oui, vous êtes des cruches, je suis une belle cruche, mais dans ce sens de carafe d'eau, cette carafe qui va être rempli par notre Dieu, rempli peut-être par notre frère et sœur, par nos frères et sœurs, mais pour pouvoir ensuite redonner. En ce moment, je me régale d'arroser les fraises. Voilà, c'est un petit... on a des fraises qui continuent à pousser, c'est super. Et je me régale, bien sûr, de les manger avec un peu de chantilly et tout ça, c'est super. Oh, le massacre. Non, la bonne fraise. Amen. Donc Jésus nous invite à aller vers les autres par ce verset aussi, dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et pour ce faire, on aura besoin d'aimer notre prochain. Amen. Alors je passe sur le deuxième point. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Bon, je ne vous endors pas, hein, ça va? Bon. Alors Dieu nous appelle à nouveau à nous tourner et porter un nouveau regard vers les autres. On parle souvent de koinonia. Alors, je ne suis pas un expert en grec, mais vous vous souvenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous souvenez ce que ça veut dire? Koinonia. Oui, Norbert, je le demandais à d'autres personnes. Mais je le sais que, voilà. Mais effectivement, ça veut dire communion. La communion. C'est un beau mot, ça. La communion. Dieu s'intéresse vraiment, et on le voit dans sa parole, à la communion que l'on peut avoir les uns avec les autres. Que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Dans 1 Jean 4, versets 7 à 9, « Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Un peu plus loin, en verset 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Oui, c'est pas moi qui le dis. Hein. Verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Waouh, Dieu nous a aimés le premier. Cet amour doit se manifester autour de nous et n'est pas réservé qu'aux frères et sœurs en Christ, mais bien à notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail aussi. Toutes ces personnes que l'on rencontre sur notre chemin au quotidien. C'est vrai, ne restons pas que sur notre montagne sainte, quelque part. Mais bien sûr, on a les personnes que l'on rencontre qui ont besoin de l'amour de Dieu. Bien sûr, aimer n'est pas toujours chose facile, surtout quand notre prochain n'a pas les mêmes goûts, les mêmes idées, les mêmes affinités que soi. Je pense que ça doit peut-être vous arriver de vouloir changer l'autre, peut-être. Ou attendre qu'il se comporte de la même manière que soi. Alors pour ma part, moi j'ai un exemple que je partage à la Réunion Maison, mais c'est avec mes collègues de travail. Alors c'est un processus qui est mis en place, mais je suis béni parce que je vois l'œuvre de Dieu. Je vois que Dieu agit. Et c'est vrai que je suis arrivé dans une équipe où on est au service après-vente. Alors au service après-vente, il faut être robuste. Il faut pas se laisser marcher dessus parce que les clients, évidemment, c'est pas pour vous appeler pour vous dire que tout fonctionne bien, que tout va bien. Non, non, c'est plutôt l'inverse. C'est que il y a des choses qui vont pas. Donc ils sont pas contents. Ça fait plusieurs fois qu'ils nous l'ont dit et ça marche toujours pas, etc. Donc il faut répondre à ça. Et en même temps, quand on espère d'une équipe, des fois, on a envie que l'équipe soit séparée. Et il y a du partage, il y a écoute, c'est pas grave, tiens, j'essaye de t'aider, on essaye de s'entraider, on essaye de se valoriser les uns les autres. Et des fois, dans certains cas, comme pour moi, ça y est pas. Ça y est pas. Donc c'est dur parce que moi, je suis plus comme ça. J'aime encourager, j'aime dire du bien, bénir, j'aime élever l'autre et pas essayer de toujours voir ce qui va pas. Alors, je m'attendais à ce que les relations puissent s'améliorer et en disant, on va être une bonne équipe, bien soudée. Mais en fait, des fois, plus on va aller dans ce sens et à vouloir, entre guillemets, un peu forcer, finalement, ce but s'éloigne. Et finalement, eux, ils sont surpris, ils disent, qu'est-ce qu'il veut, lui? il est un peu fou. Ce but, on a l'impression qu'il s'éloigne. Et je crois que le Seigneur travaille en moi, travaille dans mon cœur en me disant, laisse-moi faire, laisse-moi travailler et laisse-moi me battre pour toi. Et en fait, je me suis mis dans la prière pour ça et apporter ce sujet. Ça a l'air un peu bête, mais il n'y a pas de sujet bête pour le Seigneur. Hein? Amen. Et en fait, je vois les choses qui changent. Je vois les choses qui changent et ça, c'est beau. Je vois qu'il y a des améliorations. Je ne dis pas que c'est gagné. Mais je vois qu'il y a des choses qui passent. La communication commence à se mettre en place. Amen. Et justement, c'est quelque chose qui me préoccupe régulièrement, mais cela fait quelques mois environ que je me suis aussi remis au jogging, un peu. Alors ça se voit peut-être pas, ça se verra peut-être pas, mais c'est pas grave, c'est pas le but en fait. Le but, c'est surtout de s'entretenir, parce que c'est vrai qu'on rappelle ce verset que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et c'est vrai que des fois on l'oublie un petit peu. Ça marche pour la cigarette, ça marche pour ces addictions-là, mais ça marche aussi pour le sport, pour la nourriture, pour toutes choses. Bon voilà, c'était une petite parenthèse. C'est pas pour vanter les mérites du sport, mais que vous savez certainement, ça fait du bien pour la circulation, ça, pour le mental, etc. Bref, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bref, ce que je voulais partager, c'est que lors d'une de mes sorties, en courant, je voyais le paysage défiler. Voilà, alors pas très vite, je suis pas, mais ça défilait quand même. Et je voyais les arbres. Je voyais les arbres, et c'est marrant. En fait, dans la même saison, il y avait des arbres qui étaient feuillus, il y en avait qui étaient fleuris, il y en avait qui étaient pas du tout feuillus. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est étrange. On est dans la même saison, et pourtant, chaque arbre a sa spécificité. Alors, après, je laisserai les botanistes parler de tout ça, mais on a chacun une particularité. Chaque arbre est différent. Donc, toutes ces arbres vont porter des fruits. Tous ces arbres vont porter des fruits, vont certainement porter des feuilles, mais chacun a son temps. Donc, personne n'est meilleur que l'autre. Et autant qu'il y a de différence dans la création de Dieu, en fait, compte, autant je crois que Dieu s'émerveille des différences qu'il nous a données. Il n'a pas donné à deux personnes côte à côte les mêmes dons, les mêmes qualités, les mêmes expressions, la même sensibilité. Et je veux vous dire ce matin que nos différences font partie de la richesse du corps de Christ. Amen. Amen. Alors, c'est vrai, dans le relationnel, on a cette première partie des différences à laquelle on fait face. D'accord ? Et l'autre difficulté, bien sûr, c'est le péché. C'est le péché qui est là. Parce que nous sommes pécheurs, notre frère est pécheur, je suis pécheur, et cette même relation qu'on peut avoir, elle est teintée par le péché. Car suite à la chute, on ne sait pas si je peux faire confiance à cette personne-là. Est-ce que je peux lui faire confiance ? Est-ce qu'il ne chercherait pas son intérêt lui aussi ? C'est pour ça qu'il y a toujours cette crainte qui est là. C'est pour ça que c'est dur de faire confiance. Donc face à la première, à ce point sur les différences, c'est vrai que c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Donc on a ces différences, mais c'est ces différences côte à côte qui glorifient le Seigneur. Et par rapport à ce deuxième point sur le péché, c'est vrai que on apprend à aimer, à s'aimer malgré le péché, et à manifester le pardon, à faire confiance et dire la vérité. Et dans les deux cas, Jésus est le médiateur. Sans Jésus, qui nous transforme et qui transforme mes frères et sœurs, qui nous transforme, qui me transforme, nos relations seraient certainement encore plus dures. Apprenons à aimer l'autre avec ses différences. C'est aussi apprendre à communiquer, se dire les choses avec amour, parfois se pardonner nos faiblesses, nos manquements. Combien de fois, c'est vrai, j'ai entendu, on dit « purée, il m'a tellement blessé ». Et en fait, quand on creuse un peu, c'est peut-être la personne pensait à autre chose, elle est peut-être passée vite, etc. Et elle a fait le mal qu'elle n'aurait pas voulu faire, mais voilà, c'est arrivé. Du coup, on l'a pris comme une déception. Mais c'est à remettre à la lumière de Jésus. Donc, c'est apprendre à se pardonner. Voilà. Donc, Proverbe 27, verset 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Pas mal, ça, hein ? Aiguisé, on voit bien les étincelles là, qui sautent là. C'est un peu ça. Hein. Même avec mon épouse, hein, c'est pareil, hein, ça arrive. Mais oui, on n'est pas parfait. Hein, Mais amen. Mais j'ai choisi de l'aimer, en tout cas. Amen. 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 Et elle aussi, je crois. Hein, Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc je suis un bon mangeur, le sel, je connais, et on sait ce que, voilà, c'est bon quand on rajoute un petit peu de sel. Hein, un petit peu de sel. Eh bien, ça image bien que nos paroles doivent être accompagnées de ce sel. Hein. Soyons dans la grâce quand on se parle. Ne passons pas trop de temps dans la critique. Ça va, c'est tellement vite les critiques, et pourtant les dégâts derrière sont plus gros, sont grands. On veut toujours dire ce qui ne va pas. Il paraît que c'est français, mais sans se cacher derrière, bien sûr. La langue, nous devons apprendre à la maîtriser. On peut le voir dans les différentes sphères de notre vie. Le manque ou la mauvaise communication est souvent problématique. Si on repense au verset de tout à l'heure, Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins en Dieu par des prières et des supplications. » C'est quand même énorme de se dire que Dieu, qui connaît toutes choses et qui les a créées, nous demande d'exprimer nos besoins. Il nous demande de parler, d'ouvrir nos bouches, d'ouvrir nos cœurs et de lui exprimer ses besoins. Pourtant, il sait tout, mais il demande qu'on lui explique, qu'on lui partage ses besoins. Alors, je n'ai pas encore réussi à faire des supplications dans le silence. Ben, je ne sais pas. Ben, je sais pas vous. Si... Non. Seigneur, je te prie. Et tu vois, une supplication, c'est on supplie, quoi. Et ben, bon, ça, pourquoi pas, hein, dans le cœur, mais personnellement, enfin, pour moi, j'ai besoin de le dire à haute voix, de dire Seigneur, Seigneur. Et on le voit aussi dans les psaumes où David, il crie au Seigneur, il dit Seigneur, agis. Je n'ai pas. Voilà. Non, il veut qu'on puisse utiliser notre belle voix pour lui parler. De même, il désire que nous puissions, avec notre cœur et notre belle voix, parler à notre prochain. Lorsqu'on regarde dans la définition de communion, il y a une notion de réciprocité, être réciproque les uns envers les autres. Nous sommes responsables des uns et des autres, tout en restant dans l'humilité. Alors j'ai été touché au début du mois, c'est André qui nous parlait de la lettre à Philémon, et il nous invitait à regarder l'autre comme aimé du Seigneur. Je voulais le rappeler encore ce matin, parce que c'est vrai, quand on voit l'autre aimé du Seigneur, eh ben, ça change notre perspective. Cette personne à ma droite, à ma gauche, vous, devant moi, est aimé du Seigneur. Vous êtes aimé du Seigneur. On avait pu voir, par exemple, comment Paul était rempli d'amour pour Philémon et Onésime. Alors, comme j'ai dit plus haut, ne gardons pas la tête dans le guidon et réjouissons-nous d'avoir des frères et sœurs en Christ, afin que les autres personnes de notre quotidien ou que l'on rencontre pour la première fois, à qui on pourra témoigner de l'amour des dieux par nos paroles, notre comportement, nos attentions, soient touchées. Soyons intentionnels. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir sa maison ou son jardin et d'inviter. Amen. Alors, bien sûr, avec peut-être le masque et encore les gestes barrières, évidemment. Mais sinon, un coup de fil, comment ça va? Prendre des nouvelles des uns et des autres. Je sais qu'on a l'habitude de voir toujours les mêmes personnes dans l'Église. Et c'est normal, parce qu'on a des affinités qui se créent. Mais c'est aussi ouvrir son cœur et dire, tiens, cette personne-là, je la connais un peu moins, je veux aller la voir et apprendre un peu de sa vie et peut-être prier pour elle, peut-être elle a besoin de prière. Soyons intentionnels. Je crois que, de toute façon, le Seigneur peut nous inspirer. Il n'y a pas besoin de réfléchir, juste prier, et le Seigneur va le mettre dans notre cœur. Alors, juste cette invitation à rayonner et briller de l'amour de Jésus dans ce monde. Hein, Gérard a parlé que nous sommes la lumière de ce monde. Et juste après, donc Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Hein, vous êtes le sel de la terre. » Alors, j'aborde mon troisième point, ensemble pour servir. Nous avons vu que Dieu nous a choisis personnellement. Il nous appelle par notre nom. Il nous équipe et nous parle au travers de sa parole et par son Saint-Esprit. Dieu ne nous invite pas à vivre pour nous, pour nous-mêmes, mais à nous tourner vers les autres, malgré les différences de caractère ou autres, afin de témoigner de son amour. Au sein de l'Église, étant chacun devenu fils et fille de Dieu, nous faisons partie de cette même famille céleste où nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous marchons tous à sa suite. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Au travers de sa parole, on voit que depuis la création, Dieu nous demande de le servir avec joie. Le servir, c'est être à son écoute et utiliser les dons qu'il nous a donnés. Dans 1 Corinthiens 12, verset 18, en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. On voit même un peu plus loin que nous avons réellement besoin des uns et des autres au sein du corps de Christ pour que le corps puisse bien fonctionner. Pour que ce corps puisse avancer, le corps a besoin d'être coordonné, d'être en commun accord. Alors, regardons l'apprentissage de la marche chez un enfant. C'est vrai, toutes les étapes où il apprend à contrôler tous ses muscles ensemble, à essayer de se coordonner. Les parents vous le diront certainement. Entre l'étape où l'enfant sort du couffin et qu'il puisse marcher, il tombera des dizaines de fois, c'est vrai, avant le jour où il arrivera comme il faut. Et après, il courra. Et après, c'est parti. On ne pourra plus le retenir. Au début, on peut faire. C'est lui qui peut. Voilà, on peut diriger un peu ce qu'il fait. Après, plus tard, et apparemment, il fait sa vie. Donc, mais non. Amen. Dans Matthieu 18, verset 20, Jésus nous dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je crois que Dieu prend plaisir à nous voir œuvrer ensemble, en équipe, pour sa gloire. Et pour ma part, un beau passage dans la Bible où l'on parle d'un bon travail d'équipe, ce serait le paralytique guéri. Alors on va aller dans Marc 2, verset 1 à 12. Voilà, on va le lire ensemble. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Juste après, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Waouh. Amen. Merci Seigneur. Amen. Moi, je trouve cet épisode de l'Évangile vraiment superbe. Au-delà, bien évidemment, que Jésus, de voir Jésus qui guérit, parce qu'on s'habitue à force de le lire dans la Bible. Non, on ne s'habitue pas. C'est tellement merveilleux de voir Jésus qui guérit. Et je salue le geste et le courage, en fait, de ces quatre hommes. Ils devaient vraiment aimer ce paralytique pour se battre tous les quatre contre la foule pour atteindre Jésus. On peut presque imaginer qu'il s'agissait certainement d'une bande de cinq amis dont un avait dû peut-être avoir eu malheureusement un accident, peut-être, sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, ils ont dû se mettre d'accord sur la stratégie à adopter pour éviter la foule et amener leurs collègues à Jésus qui saurait lui quoi faire. Et ce n'est pas évident de monter en hauteur avec un brancard, avec un lit, à bout de main, aussi léger soit-il. Surtout s'il me ressemble un peu, il devait bien porter. je pense qu'ils ont dû persévérer, communiquer, réfléchir ensemble avec cette même vision de venir aux pieds de Jésus. Effectivement, peut-être qu'ils auraient voulu aussi s'approcher de Jésus, mais tant pis. Leur but premier était que leur ami puisse toucher Jésus et espérer qu'il soit guéri. Amen. Ceci est vraiment un exemple d'amour fraternel et de foi. C'est pour cela que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est par la foi, finalement, de ces quatre amis que le paralytique fut pardonné et guéri. Amen. Dans la même lignée, on voit dans Actes 5, versets 12 à 14, « Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. » Waouh, c'est énorme ça. Encore un exemple où, en plus d'être en communion avec le Seigneur, les apôtres se sont mis d'accord pour s'installer à cet endroit, pour prier ensemble, manifester la gloire de Dieu. Amen. Alors pour conclure, je vais terminer là-dessus, j'aimerais vraiment nous exhorter à veiller sur notre relation personnelle avec Dieu pour que notre vase déborde. Jésus est vivant et nous parle par son esprit qui vit en nous et par sa parole. Gardons nos cœurs sensibles à sa voix et nos pensées captifs à son obéissance par la prière. Dieu nous envoie comme témoins dans ce monde pour partager la bonne nouvelle qu'il est venu sur la croix, donné sa vie pour nous et qu'il a été ressuscité d'entre les morts par amour pour nous. Par son esprit, nous continuons à voir sa puissance se manifester. Amen. Que notre langue soit empreinte d'amour et de grâce, comme Dieu nous a fait grâce, étant devenus fils et filles de Dieu, que nous puissions, dans un commun accord, continuer à œuvrer ensemble et servir avec joie pour la gloire de Dieu. Amen. Alors peut-être je vous invite à vous lever. Amen. On va finir par la prière. Amen. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ces paroles qui résonnent dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour cette relation personnelle que tu as avec chacun de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous envoies. Tu nous envoies vers ce monde. Tu nous envoies au sein aussi de notre communauté, de notre Église, à répandre ton amour, à toujours te ressembler de plus en plus, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné ton esprit, Seigneur, et que ton esprit est agissant au-dedans de nous, Seigneur, et qu'on peut voir encore ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer à nous parler. Merci parce que tu nous conduis et tu conduis ton peuple maintenant encore. Merci, Seigneur, pour cette belle semaine. Merci, Seigneur, pour cette semaine où on va montrer cette différence. Oui, nous ne sommes pas comme ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde pour ta gloire, Jésus. Au nom de Jésus, amen.